Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Installez-vous, c'est le débat du jour. C'est aussi un casse-tête pour les organisateurs de l'Euro de football, des JO de Tokyo, de la Copa América ou encore de Roland-Garros qui se déroule en ce moment à Paris. Ces événements sportifs dépendent aussi de la pandémie de Covid. Leur organisation est donc périlleuse. Alors comment accueillir sportifs et spectateurs dans de bonnes conditions sanitaires ? Une annulation de dernière minute, de tels rendez-vous sportifs avec énormément d'enjeux, y compris financiers, est-elle encore possible ? La vaccination et le pass sanitaire sont-ils les solutions ? Autant de questions que nous allons poser à nos trois invités.
RFI.
Bonsoir Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à la Sport Management School de Paris et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. En face de vous, Nicolas Xismartoff. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au magazine SoFoot, auteur du livre Terrain de jeu, terrain de lutte aux éditions L'Atelier. Et puis par téléphone également avec nous, Jean-Baptiste Guégan. Bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant, spécialiste en géopolitique du sport et auteur du livre « Géopolitique du sport, une autre explication du monde » aux éditions Bréal. L'Euro de football, pour commencer cette émission, un Euro qui débute ce vendredi 11 juin, alors déjà décalé d'un an en raison de la pandémie. L'Euro devait être le premier tournoi organisé à l'échelle européenne avec des matchs de Dublin à Bakou en passant par Copenhague, Bilbao, Saint-Pétersbourg avant des demi-finales prévues à Londres. Si chaque pays a donc ses règles sanitaires pour organiser cette Euro, je me tourne vers vous, Pierre Rondeau. Est-ce bien raisonnable de l'organiser ?
Chaque pays a ses mesures sanitaires, son protocole sanitaire. Je dirais même qu'il y a des monnaies différentes selon les pays, des fuseaux horaires différents selon les pays. C'est assez complexe. Mais il faut quand même revenir à l'origine, à ce qui a été le projet de départ voulu et demandé par, à l'époque, Michel Platini, l'ancien président de l'UEFA. Symboliquement, c'était fort. Et lorsqu'on avait poser la possibilité d'un euro organisé dans toute l'Europe, le symbole justement de cette communion, cette unité des nations européennes. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas cette pandémie. Les gens y croyaient et le projet semblait intéressant. Ça permettait de réunifier, de communier avec tous les peuples européens. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question. C'est très compliqué, c'est complexe. Malheureusement, et là, si j'ose dire, c'est un peu l'argent a pris le dessus sur le sanitaire, le bon sens peut-être, être sportif.
C'est ce que vous pensez ?
Les contrats ont été signés. Dès lors que les contrats ont été signés avec les organisateurs, ça coûterait très cher d'y renoncer et de les briser. Donc avoir acté cet euro à l'époque 12 nations, maintenant 11 nations, l'euro doit être fait, qu'il y ait ou pas le Covid. Alors ça va être compliqué, ça va être contraignant, ça va être difficile, mais il aura lieu. Et j'espère que dans 20 ans, 25 ans, 50 ans, on retiendra cet euro européen qui semble symboliquement assez fort.
Et c'est l'enjeu économique qui l'emporte sur l'enjeu sanitaire, Nicolas Xismartoff.
Là, ça semble assez évident. La raison, entre guillemets, même si dans certains pays comme la France, on a l'impression qu'on en sort un peu, la logique pour justement passer le cap et tranquillement avancer, ça serait de l'annuler. Et ça serait également, on reviendra sur d'autres compétitions comme les JO, des annuler également. Mais là, il y a deux aspects qui se conjuguent. D'abord, il y a effectivement un aspect économique très fort, mais les États et les gouvernements aussi souvent affirment qu'il faut quand même revenir à une vie normale. Même en France, où on n'a pas de match pour le coup, puisqu'on a organisé il y a 4 ans, il y a cette idée que ça va permettre de passer le cap. Voilà, mais le problème, c'est que par ailleurs, je ne sais pas, vous avez entendu, les équipes, on n'est même pas sûr que toutes pourront jouer, parce qu'on commence déjà à avoir des situations où elles sont mises en isolement. Et je ne parle même pas du plus, certes, très
réduit. Vous pensez au capitaine de l'équipe d'Espagne,
voilà,
Sergio Busquets, positif au Covid.
Mais même les supporters, même si c'est très limité, il y a un final fort à Londres. Et Londres, normalement, il y a des jours de quarantaine qui sont maintenus et tout. Ça va être très compliqué. Si jamais un retour de pandémie et si beaucoup d'équipes sont déclarées forfait, on va peut-être vivre un euro très singulier. Moi, j'étais pas fan au départ de la formule, contrairement à mon opposant. Mais moi, je trouve qu'une compétition, c'est dans un seul pays, c'est ce qui donne sens. On se retrouve tous ensemble. Voilà, c'est trop éclaté.
Ironie du sort, c'est la fois où la compétition se joue dans autant de pays que l'on doit vivre aussi avec le coronavirus. Jean-Baptiste Guégan, est-ce que vous partagez ce que vos confrères viennent de dire ?
Effectivement, l'économie est déjà la seule et unique raison pour laquelle cet euro perdure. Et puis, la situation sanitaire apparaît en arrière-plan, comme complètement incontrôlable, et ça a l'air d'être le cadet des soucis de l'UEFA et des autres. On n'est pas quand même à un vrai risque, d'abord pour les joueurs, pour les rares spectateurs en place, et puis il y a une sorte de dénégation de ce qui se passe. Alors effectivement, ça va redonner du beau moqueur à tous ceux qui vont pouvoir regarder cette manifestation, hein. On se souvient du premier confinement, on était tous en manque de foot. Maintenant, est-ce qu'il fallait aller jusqu'à enfermer les joueurs dans des bulles sanitaires, leur imposer des conditions d'exercice de leur travail qui sont quand même extrêmement rigoureuses et que la majeure partie des cadres européens n'accepteraient pas. Tout ça pour faire plaisir finalement aux téléspectateurs, aux chaînes, et puis surtout remplir les caisses de l'UEFA. Je suis pas sûr que c'était la bonne option. Effectivement, il y a une vraie ironie, hein. Là où pour la première fois une manifestation à l'échelle européenne, ça se transforme en véritable casse-tête organisationnel et sanitaire.
Et puis l'autre particularité de cet euro, c'est que comme il est organisé dans 11 villes, 11 pays différents, eh bien, de fait, il y aura de très nombreux déplacements.
Oui, il y a aussi, c'est un point qui est peu malheureusement soulevé quand on parle de l'euro, parce qu'on met surtout en avant les risques sanitaires et économiques, mais le point de vue environnemental aussi. Les déplacements de Bakou à Londres, je crois que c'est 5000 kilomètres. Il va falloir intégrer cet impact environnemental lié au déplacement des équipes à travers toute l'Europe, y compris Bakou, qui est en Asie, finalement.
Et avec une éventualité de transporter le virus ou son variant.
Mais de toute manière, aujourd'hui, alors on parle effectivement de l'euro, mais on parlera ensuite des JO de Tokyo ou de la Copa América. Toutes les grandes compétitions sportives sont par nature génératrices de risques via les mouvements de foule, via les touristes, via même les sportifs. Parce que pour les JO de Tokyo, sur lesquels on va venir juste après, pour les JO de Tokyo, là où les Tokyoïdes, si je puis dire, sont opposés, c'est qu'ils ont peur que les sportifs directement amènent le Covid. Parce qu'il y aura une interdiction de déplacement des supporters étrangers. Il n'y aura que les locaux, si je puis dire, et les sportifs. Idem pour l'euro. Qu'on aille de Bakou à Londres, quelqu'un peut parfaitement, malheureusement, amener le virus et recréer un cluster et relancer l'épidémie qu'on espérait derrière nous jusqu'à peu.
Nicolas Xismartoff.
Oui, en fait, ce qui est très intéressant avec l'euro qu'on s'apprête à vivre, c'est qu'on est confronté à la question centrale et qu'on vit en ce moment, nous, en France, hein, avec le retour dans les bars, etc. C'est à quel moment on décide qu'on va vivre avec ? À quel moment on accepte l'idée que l'économie, la vie sociale, parce que l'euro, c'est aussi l'idée que les gens vont retourner, pour la France, hein, je parle, il y aura très peu de monde dans les stades, mais vont retourner dans les bars pour regarder les matchs, hein. Ça tombe bien, le confinement va passer à 23h à partir de mercredi, donc c'est parfait. Voilà. Donc, à quel moment, c'est la question essentielle, et c'est en ça que l'euro est intéressant, où on dit, on s'explique entre nous, bah, écoutez, on va accepter le risque de vivre avec le Covid et le faire circuler de nouveau et de repartir, parce que pour l'instant, c'est la question qui se pose. Et effectivement, il y a un deuxième point qui est extrêmement intéressant et à souligner, c'est que c'est l'immense discrétion des discours officiels sur le sujet. C'est-à-dire que aucun gouvernement a dit un moment non. Non, c'est bon. Là, moi, je veux pas assumer ça. Et pourtant, les Anglais sont hyper stricts, pense, depuis un certain temps. Mais non, aucun. Ils sont tout le monde dit bon, bah, ça va se faire, donc on accepte.
C'est vrai qu'il y a un risque. Alors là, effectivement, on fait le parallèle avec la France et la fin du déconfinement et la réouverture des bars et finalement à une vie comme avant. Mais quand on prend le cas anglais, les Anglais commencent à s'inquiéter d'une reprise de l'épidémie, en tout cas du variant indien qui serait en train de s'imposer parmi les hospitalisations. Donc on est effectivement, la question qu'il faut se poser au-delà du contexte économique, sanitaire, politique, diplomatique, même sportif, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que aujourd'hui en 2021 on se décide à revivre comme avant, à vivre avec le virus ou à s'adapter face au virus et dans ces cas-là à imposer une bulle sanitaire, à annuler l'Euro 2021 dans 11 nations et faire uniquement, comme on l'a fait pour la Ligue des Champions, une bulle sanitaire dans un seul pays, par exemple au Portugal ou en Angleterre, et donc s'adapter face au virus. Est-ce qu'on considère que dorénavant il faut vivre avec et donc faire accepter ces risques inhérents à l'épidémie, ou considérer que on va minimiser les risques le plus possible et donc à partir de là imposer des huis clos, imposer des bulles sanitaires, imposer des restrictions, imposer un protocole sanitaire strict et quelque peu, et là c'est là où ça dérange, j'imagine, les gouvernements et le pouvoir économique, quelque peu déranger les grands agrégats économiques et politiques qu'il y avait jusqu'ici.
Là où je suis très étonné, c'est que j'ai affaire à des passionnés de football, nos trois invités là que vous êtes, et pour la plupart vous êtes quand même très sceptiques sur cette organisation de l'euro, comme si les organisateurs sacrifiaient son organisation sur l'autel du risque sanitaire. Jean-Baptiste Guégan.
Bah, la question politique, elle est centrale. On les a vus extrêmement réactifs au moment de la Super League, alors que très honnêtement, ça concernait des partenaires privés et une certaine idée du football. Et là, pour des questions sanitaires qui concernent une bonne partie des pays d'Europe, on les trouve étonnamment silencieux. Peut-être que, vu le calendrier électoral, il y a peut-être des raisons à ça. De toute façon, la gestion de la pandémie de Covid à l'échelle européenne est finalement à l'image de cet euro. Hein. On est face à, au mieux, un casse-tête, au pire, un échec. Et c'est quand même assez inquiétant, parce qu'on a quand même des populations qui sont confrontées à ça. Dire vivre avec le virus, oui, mais il faut imaginer ce que ça veut dire de lésions, ce que ça suppose aussi d'hospitalisation, de poids aussi pour les finances publiques, et puis de fatigue du corps médical. De vivre avec, il est compliqué, et puis il suffit de l'avoir eu un peu fort, ou de l'avoir traîné via un Covid long, pour savoir que vivre avec, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Aujourd'hui, 7 euros, on le regardera peut-être dans 5, dans 4 ans, 10 ans, 20 ans, comme une marque d'irresponsabilité politique et d'immaturité à l'échelle européenne.
Alors, du football, on va en parler encore avec la Copa América, mais juste avant, je voulais un succinct tour de table avec vous. Quand on voit que certains pays ont avancé plus que d'autres dans leur campagne de vaccination, et l'on entend dire qu'Israël pourrait proposer d'organiser l'euro, est-ce que vous y croyez ?
Bah effectivement, après, je pense qu'il faut s'adapter en permanence. Rien n'est inscrit dans le marbre et lorsqu'une candidature est déposée, ou en tout cas un dossier de candidature est présenté, il faut intégrer toutes les nouvelles variables qui s'imposent. On a eu il y a maintenant quelques années une contrainte environnementale avec une demande de bilan carbone, en tout cas de présentation d'équilibre environnemental. Il faut aussi dorénavant intégrer à chaque fois qu'il y a une candidature déposée, la vaccination, la minimisation du risque de pandémie, en tout cas quelque chose qui prouve qu'un pays peut organiser un événement sportif.
Au dernier moment, changer le lieu d'accueil de l'euro ?
Ça, j'y crois pas du tout.
Alors, pour Israël en 2021, moi non plus.
Non, mais
ça avait été 2024 ou 2028.
Après, Israël posera d'autres problèmes bien plus complexes. D'abord, Israël joue avec l'UEFA parce qu'évidemment, il y a le boycott de tous les autres pays autour de lui. Et effectivement, là, il faut rappeler qu'il y a eu des campagnes de boycott des compétitions en Israël. Là, ça serait plus la dimension sanitaire. Elle serait très loin reléguée derrière toutes les implications politiques que ça supposerait. Regardez tout ce qui se passe dès qu'il y a une compétition en Israël ou qui met en cause des athlètes israéliens.
Le trophée des champions français aura lieu en Israël l'été prochain.
Jean-Baptiste Guégan.
On en parlera.
Justement, pour faire écho à ce que disait Pierre, aujourd'hui, là, on est face à de l'opportunisme politique de la part du gouvernement israélien et de ses acteurs politiques. C'est-à-dire que depuis quelques années déjà, ils utilisent le sport pour changer leur image et faire oublier une bonne partie de la question palestinienne. Là, en l'occurrence, se proposer comme capable d'organiser justement l'euro des beautés, bah, c'est faire finalement ce qu'ont fait les Russes il y a ça 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ils ont dit, regardez, nous, on a Sputnik V, on est capable d'accueillir l'Europe, venez chez nous. Bon, alors évidemment, on n'a pas le même traitement hein, quand on parle de l'un ou de l'autre, mais dans les deux cas, on est sur une récupération politique qui confine aussi finalement soit à la mauvaise idée, dans le meilleur des cas, soit finalement à quelque chose qui intellectuellement est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'imaginer qu'on peut faire voyager un événement de cette ampleur-là, l'organiser en quelques semaines, soit on est face à des fous, soit on est face à des gens qui sont complètement irresponsables.
La Copa América, à présent, nous sommes sur le continent américain. Nous avons appris la semaine dernière que le deuxième pays le plus endeuillé au monde par le Covid, avec 470 000 morts, a hérité de l'organisation du tournoi à la suite du désistement de la Colombie en raison des troubles sociaux, puis de l'Argentine en raison de la crise sanitaire. Quand on voit que le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid organise une telle compétition, là aussi contradiction.
Il faut aussi rajouter qu'il y a aussi un scandale sexuel actuellement au sein de la Fédération brésilienne de football. Donc il y a à la fois le risque pandémique au Brésil, avec la fédération qui souhaite organiser cette Copa América, donc la compétition des nations d'Amérique du Sud, avec un taux d'incidence qui est, je crois, aussi élevé que celui de l'Argentine, qui a abandonné du fait du risque pandémique. Et vous rajoutez à ça en plus un scandale sexuel au sein de la fédération brésilienne. Donc à mon sens, c'est du... On en discutait tout à l'heure sur l'impératif économique. La Copa América, effectivement, c'est une compétition qui rapporte. Des contrats ont été signés, des droits TV ont été dealés, des sponsors doivent être honorés. À partir de là, malheureusement, la compétition, alors je dis pas qu'elle devra avoir lieu, mais en tout cas, les forces politiques sportives font tout pour qu'elle ait lieu, quitte à paraître totalement aberrant et ubuesque à organiser la chose au Brésil.
Alors, une compétition prévue normalement à partir du 13 juin prochain. Les joueurs brésiliens, eux, ont convenu de s'exprimer demain, mardi, après le match qualificatif au Mondial 2022 contre le Paraguay, notamment par le biais d'un manifeste. Alors, est-ce qu'ils vont annoncer le boycott de la compétition, d'après vous, Jean-Baptiste Guégan?
En tout cas, si c'est pas un boycott, ça amènera pas de la sérénité. Et on est face à une équipe du Brésil qui est concrètement en train d'avancer sur l'île d'un refus, en tout cas d'une opposition nette par rapport au pouvoir. Bolsonaro ici, qui pensait, à mon avis, en tirer profit à l'échelle nationale et internationale, va y être de ses frais. Parce que si votre propre sélection, votre propre sélectionneur, au mieux appelle à des réserves, au pire boycott, eh ben vous avez échoué. Parce que si le Brésil n'y est pas, alors qu'il organise, ça risque de poser de vraies questions en termes de suivi de l'édition. Ça va être une première. Et en l'occurrence, ça va aller à l'encontre des intérêts politiques. D'abord, de la Confédération brésilienne de foot et plus encore du pouvoir politique dont on sait qu'il est très critiqué.
En l'occurrence, le président Jair Bolsonaro. Nicolas Xismartoff.
Oui, ben là, on est clairement face à quelque chose d'essentiel, c'est qu'on se rappelle quand même que c'est une pandémie mondiale et que dans nombreux pays, la perception, la gestion qui en a été faite, même si on peut être très critique pour ce qui s'est produit en Europe, a été encore plus terrifiante. Et le cas du Brésil et, dans une moindre mesure, de l'Amérique sous Trump, par exemple, sont assez emblématiques. Et vous imaginez quand même que c'est un gouvernement, effectivement, comme il s'était rappelé, avec un taux d'incidence toujours excessivement fort. La vaccination, on n'en parle même pas. Et le nombre de morts, c'est une guerre, voilà, pour parler clairement, qui a été perdue, en plus. N'importe qui, normalement, même en étant ultra conservateur, et fondamentalement, dirait non, c'est pas possible, on n'a pas les moyens économiques, on n'a pas la possibilité. Non, je pense qu'il y a eu un opportunisme politique énorme. Peut-être même qu'il s'est dit qu'effectivement, personne ne viendrait et qu'il aura au moins proposé et que tout le monde sera heureux, que le Brésil soit. Mais là, c'est peut-être effectivement politiquement en train de se retourner contre lui. Il faut savoir que de nombreuses stars brésiliennes s'étaient plutôt prononcées en sa faveur pour son élection. Et que là, il y a quand même un espèce de. Si cette élection, justement, qui était plutôt marquée conservatrice, avec un rapport très fort aux évangélistes, se prononce contre lui, ça serait un signe de retournement sociétal assez fort au Brésil.
Non, mais il y a un élément que j'aurais voulu rajouter, mais on me demande de faire court, mais je ne sais pas si j'aurais été capable. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Nicolas, sur le fait que, justement, aujourd'hui, la volonté politique d'organiser une compétition sportive se retourne contre le politicien. On le voit au Brésil, où ça pourrait se retourner contre Bolsonaro.
Et où les joueurs auraient ou ont le pouvoir.
Les joueurs auraient ou ont le pouvoir. Effectivement, chose qui n'était pas le cas autrefois, mais moi, je le vois aussi à travers le Qatar. Le Qatar qui, pendant des années, a cru faire du soft power via l'organisation de compétitions sportives, y compris le point d'orgue, le Mondial 2022, qui depuis 10 ans est le futur organisateur de cette compétition et va arriver en grande pompe avec ce Mondial grandissime et assez impressionnant. Mais ça commence à se retourner contre lui, parce que c'est une compétition, et ce sont des compétitions tellement visibles que le monde entier a les yeux rivés sur eux, et donc a les yeux rivés des yeux accusateurs. Le Qatar, c'est 5000 morts sur les chantiers. Idem le Brésil, c'est 300 000 ou 400 000 morts du coronavirus. Et donc les gens, plutôt que de dire merveilleux, magnifique, le ballon rond, le football, ils disent ce que vous faites, c'est honteux, c'est chaud. Et ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, les compétitions sportives n'ont plus le même vecteur médiatique et politique qu'elles avaient autrefois, parce qu'autrefois, on pensait naïvement qu'on allait être aveuglé par la beauté du football.
Les événements sportifs plus forts que le Covid, nous en débattons ce soir en direct avec Pierre Rondeau, Nicolas Xismartoff et Jean-Baptiste Guégan.
Le débat du jour.
Et faisons un détour à présent par Roland Garros, car aucun sport n'échappe à la pression mentale. Les sportifs qui n'osent pas reconnaître avoir souffert de dépression sont nombreux, y compris dans le tennis. Nous sommes à présent avec Eric Mamrut, journaliste au service sport d'RFI. Vous êtes à Roland Garros. Bonsoir Eric.
Bonsoir Adrien.
Et l'effet Covid, un aspect vraiment non négligeable sur la psychologie des joueurs de tennis, comme d'ailleurs vous avez pu le constater depuis le début de la quinzaine.
Oui, et même depuis l'an dernier, car on rappelle que le circuit a été arrêté en raison de la pandémie durant 6 mois, entre le mois de mars et fin août. Donc il n'y a plus de tennis, de tournois pendant toute cette longue période, ce qui pour certains joueurs mal classés était déjà très compliqué au niveau financier. Après, quand ça a repris, il y a eu le système des bulles sanitaires et évidemment ne pas sortir de l'hôtel, vous connaissez le système. Et donc de semaine en semaine, les joueurs sont obligés de passer d'une bulle à l'autre sans être accompagnés la plupart du temps de leurs amis, de leur famille. Donc déjà, c'est un manque affectif indéniable. La vie sur le circuit, quand vous voyagez déjà tout le temps, c'est assez compliqué. Si en plus vous êtes sans doute privé de votre famille, parce que c'est trop compliqué pour des enfants, pour une femme, évidemment aussi, d'accompagner le joueur et de passer d'une bulle à l'autre, de rester bloqué à l'hôtel, c'est pas possible. Donc déjà, ça fait une difficulté pour ces joueurs-là à vivre. Après, il y a eu des périodes de quarantaine imposées. Il y a eu des tests positifs, parfois erronés. D'ailleurs, Richard Gasquet a dû être bloqué dans sa chambre d'hôtel pendant 14 jours à New York. Et à la fin, il disait, j'en ai assez de manger des César salades. Mmh. Parce qu'il faisait room service jour après jour, il n'en pouvait plus.
Et c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on voit que certains même perdent pied, en quelques mots.
On a eu, lors du dernier Roland-Garros en octobre dernier, déjà, donc, 2-3 mois après la reprise, certains joueurs qui disaient « mais c'est vrai que c'est pas possible, on perd toute motivation ». Parce qu'ensuite, ça entraînait des tournois à huis clos. Ça, c'est en dehors du stade. Et à l'intérieur du stade, c'est aussi jouer sans public, sans retour de la part du public. Et ça, il y a certains joueurs qui perdent leur motivation aussi. L'exemple le plus extrême, c'est Benoît Paire, qui, lui, sans ce retour affectif, dont il a besoin absolument apparemment pour pouvoir jouer, sans l'appui de ses supporters, il est complètement perdu. Et on l'a vu complètement péter un câble, excusez-moi, mais c'est vraiment l'expression, insulter tout le monde, devenir fou complètement. Donc il y a perte de motivation, perte de repères, difficulté pour les joueurs argentins de revenir de temps en temps dans leur pays, parce qu'ils sont en Europe, ils peuvent pas revenir facilement en Argentine entre deux tournois parce que c'est trop compliqué, tous les tests et les impossibilités de voyager. Donc ça a totalement chamboulé la vie du circuit et évidemment le mental des joueurs.
Merci beaucoup Eric Mamrut. Je noterai aussi, je rappelle que la championne de tennis japonaise Naomi Osaka a annoncé la semaine dernière son retrait du tournoi de Roland-Garros pour, dit-elle, préserver sa santé mentale. Je me tourne vers vous Nicolas Xismartoff. Est-ce que l'on prend bien en compte ou l'on prend bien la mesure de l'impact psychologique sur tous ces sportifs dans toutes ces compétitions qui nous font rêver?
Moi, je trouve très intéressant la période qu'on traverse parce que le Covid, et ce que ça vient très bien d'être expliqué pour le cas du tennis, mais qu'on peut retrouver pour le football ou d'autres sports, souligne et exacerbe ce qui est une réalité profonde du sport de haut niveau aujourd'hui, qui est lui-même une bulle avec des contraintes et des pressions très fortes sur les personnes qu'on a tendance à occulter ou ne pas vouloir voir parce qu'effectivement, des fois, ils gagnent très bien leur vie et qu'on estime qu'ils sont des privilégiés, mais ça produit depuis très longtemps. Il y a eu des articles, il y a eu un dossier sur la dépression dans le football qui ne date pas d'aujourd'hui. Et au même titre que l'addictologie qui peut se développer chez les anciens sportifs de haut niveau est un phénomène bien connu malheureusement, aujourd'hui, il faudra peut-être prendre en compte cette réalité que c'est le stress au travail, la souffrance au travail, comme on en parle beaucoup dans la société, touche également des personnes qui effectivement peuvent avoir des revenus et un confort de vie indiscutable. Et on a vu, le Covid met ça en lumière de manière très dure et violente.
Et d'autant plus quand on sait que chez les sportifs, le mental est très important. Jean-Baptiste Guégan, vous voulez réagir sur cette question?
Quand on voit par exemple Azenka qui explique hier, après avoir été battu à Roland-Garros, qu'elle en a assez des bulles quand on voit les défaites des Lakers en playoff NBA avec l'usure mentale de LeBron James et les blessures d'Anthony Davis ou encore la réaction de Naomi d'Osaka. On est face ici à des sportifs qui montrent aussi l'importance des risques psychosociaux avec tous les problèmes que ça pose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tendance à oublier que pour performer, il faut être dans des conditions optimales. Et que dans certains cas, on force la nature humaine et on la pousse jusque dans ses retranchements. Et souvent avec les sportifs, physiquement, ça casse, mais c'est aussi mentalement qu'on est usé. Il suffit de voir, par exemple, le nombre de sportifs, mais aussi de footballeurs, qui finissent en dépression après la fameuse petite mort, hein, la fin de leur carrière, sans parler des risques de faillite financière. On est face ici à un impensé du sport ou à beaucoup de choses que les gens ne veulent pas voir parce qu'on les voit comme des gladiateurs absolument invulnérables. Et aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas encore traitée sérieusement, notamment par les diffuseurs, parce que pour l'instant, tout le monde en profite. Mais quand il s'agit de régler la facture après et de voir la casse que ça provoque, c'est plus facile d'insulter Benoît Paire que de regarder pourquoi il est dans cet état-là.
Alors certains athlètes sont déjà arrivés à Tokyo, je vous parle à présent là des JO juste avant de refermer cette émission, les Jeux Olympiques donc déjà reportés, j'ai envie encore de parler au conditionnel, ils devraient avoir lieu à partir du 23 juillet prochain. Vu la situation mondiale, d'après vous, ces Jeux Olympiques sont-ils encore annulables ?
Mais il y a
Pierre Rondeau.
Alors annulables, ouais, grande question, parce qu'encore une fois, là où c'est très différent quand on compare la Coupe du Monde, enfin à peu de choses près, l'Euro et les JO, c'est que les JO, leur particularité, je dirais historique, c'est que ça soit des puits économiques, des puits sans fond en termes de coûts d'organisation et d'investissement.
Et parfois, si vous permettez, mal redistribué, on entend de nombreux athlètes.
C'est mal redistribué.
La théorie du ruissellement pour certains athlètes.
Mais même au-delà de ça, même en termes d'investissement structurel, c'est très souvent des infrastructures fastueuses, notamment à Pékin ou à Athènes, où on a construit des stades, des infrastructures sportives aujourd'hui à l'abandon, donc ça coûte très cher. Pékin, c'est 32 milliards, par exemple, 32 milliards de dollars. Tokyo, ils en sont à 12. Je crois que le coût de la prolongation, en tout cas du report d'un an, a coûté entre 6 et 9 milliards d'euros à Tokyo. Aujourd'hui, les Tokyoïtes et les Japonais n'en veulent pas. N'en veulent pas pour les risques sanitaires que ça incombe, effectivement, mais aussi pour le coût que ça a sur toute l'économie japonaise. Donc, je crois, d'après un récent sondage, 80% des Japonais ne veulent pas des JO. Maintenant, toute la question de savoir s'ils auront lieu, parce que, contrairement à l'euro, où l'euro, finalement, l'organisation structurel coûte peu cher puisque les stades sont déjà en place, pour des Jeux Olympiques, pour une Olympiade, il faut tout construire. Donc vous dépensez beaucoup d'argent, mais il faut ensuite pouvoir récupérer, avoir un retour sur investissement, faire ces JO, accueillir du tourisme, accueillir des touristes étrangers qui vont permettre de consommer et donc de provoquer un surplus économique. Là, il n'aura pas lieu, donc il y a un risque sanitaire, il y aura peut-être pas de bonification économique, et en plus, ça a coûté de l'argent. Donc de là à dire annulation, peut-être, mais en tout cas, difficulté, c'est sûr.
À la place, alors, d'une éventuelle annulation, est-ce qu'on pourrait imaginer des JO à huis clos, Jean-Baptiste Guégan ?
Ah bah là, déjà, quand on regarde les playbooks, les règles qui ont été imposées aux médias, aux diffuseurs et aux sportifs, force est de constater que le huis clos, il va avoir lieu déjà du côté du monde sportif, c'est-à-dire ceux qui font, qui suivent et qui diffusent. Après, des spectateurs, il y en aura, mais ce seront essentiellement des locaux, beaucoup moins que prévu. Il y a eu une campagne de remboursement de billets absolument colossale. Donc déjà, le comité d'organisation ne va pas rentrer dans ses frais, c'est une évidence. Et puis surtout, derrière, c'est l'image. Parce que si le Japon organisait ses Jeux, c'était d'abord pour doubler son nombre de touristes internationaux. C'était aussi avec pour ambition de faire oublier Fukushima. Là, vous allez avoir des stades au quart vide. On voit ce que ça donne dans les billets dans les sports US, on voit ce que ça donne dans les stades. L'image donnée ne va pas être bonne. Et si en plus, il y a des mouvements de contestation, ça va être compliqué. Vous rajoutez à ça 3-4 cas de Covid avec des épreuves qui peuvent être annulées ou qui ne peuvent pas se dérouler, et vous êtes face à un vrai casse-tête, puisque finalement, tout ce pour quoi vous avez investi va littéralement se retourner contre vous.
Casse-tête alors, ou pas, en guise de conclusion, Nicolas Alexis Martoff?
Casse-tête, et surtout pour la suite, parce que le CIO a déjà énormément de mal aujourd'hui à trouver des candidats pour les JO. Il y a des mouvements de contestation, des référendums qui ont refusé dans certaines villes comme Hambourg la candidature. Là, c'est pour la suite, aller expliquer à des villes et à des pays, maintenant, il faut réinvestir des milliards dans nos jeux qui sont surdimensionnés. Bonne chance, le CIO va affronter un après Tokyo qui va être peut-être encore plus difficile que ce qu'il va vivre dans un mois.
Des JO de Tokyo, un euro de football, Roland Garros, la Copa América, des événements sportifs à suivre sur Radio France Internationale. Merci à vous, à tous les trois, Pierre Rondeau, Nicolas Aksis-Martov, Jean-Baptiste Guégan, d'avoir participé à cette émission. À retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. À la réalisation ce soir, Jean-Philippe Thury, merci à lui. Coordination, Florence Ponce. Documentation, Vanadis Feuille. Rédaction en chef, Jacques Alix. À demain sur Radio France Internationale pour un nouveau débat. Et dans quelques secondes sur la Radio du Monde, c'est un nouveau journal qui vous attend.
Sept milliards de voisins.